Donc je vais lire le texte que j'ai choisi. Alors c'est l'épître aux Philippiens qu'on a cité tout à l'heure, que Brigitte a cité en priant. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11, et ensuite Philippiens 4, chapitre 4, verset 10. Donc je voudrais aujourd'hui qu'on fasse un petit retour sur les conférences qui se sont tenues ici pendant toute l'Expo Bible. Et on s'est beaucoup intéressé sur les origines. Il y a un conflit certain entre la théorie de l'évolution et la création, selon un Dieu bienveillant et tout-puissant, et que présente la parole de Dieu. Donc cette théorie d'évolution basée sur le hasard d'une part et la loi du plus fort et de la survie à tout prix d'autre part, c'est une théorie qui laisse peu d'espoir, hein, pour les personnes qui sont les plus faibles. Une des conférences portée sur la liberté de penser. Et la théorie de l'évolution n'explique pas la pensée humaine, le fait que nous ayons ces capacités-là, ça marque une différence fondamentale entre les hommes et les animaux. Et donc ce matin, on va prolonger la réflexion de cette conférence qu'il y avait eu sur la liberté de penser. Donc je vais lire le passage philippien, chapitre 2, versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, une même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par le désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Hein. Mot attitude ici, on peut aussi le traduire en pensée. Lui, qui de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une butée à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la place la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelques pages plus loin, Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, par une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manque. La liberté de penser, alors on avait vu dans cette conférence que commençait par le philosophe Descartes, qui affirmait que penser, c'est exister. Et bien avant lui, Aristote a déclaré que l'homme est un animal pensant. Et bien avant lui, Salomon avait écrit: Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il exprime ainsi que l'homme est une créature avec cette pensée de l'éternité, une créature créée à l'image du Dieu éternel, mais limitée. Il ne peut saisir ce que l'œuvre de Dieu fait du commencement à la fin. La faculté de penser, de faire des projets, de créer, ça vient de Dieu. Nous sommes créés à son image. Et donc, cette pensée créatrice que nous pouvons avoir, elle est forcément libre parce qu'elle vient de Dieu, elle est donnée par Dieu. Dans les textes du commencement, Genèse 2, chapitre 19, on a une belle illustration de cela. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'on lui donnerait. Et il y a une délégation ici que Dieu a fait à l'homme de donner un nom à tous les animaux. Et donc l'homme pouvait mettre ses facultés d'observation et de réflexion et de création pour pouvoir donner à chaque animal un nom. C'était une mission qu'il avait, et Dieu lui laisse donner le nom que l'homme veut. On sait qu'après il y a eu la chute, l'homme et la femme ont douté de la bonté de Dieu, et ils ont décidé de lui désobéir, et le mal est entré dans le cœur de l'homme à ce moment-là, avec des conséquences jusqu'à présent. Et donc, on avait vu qu'on se rend compte de cela dans la réalité de ce que sont nos pensées, parce que des fois, on identifie en nous des pensées que l'on ne voudrait pas avoir, ou des pensées que l'on voudrait se débarrasser, des choses dont on ne veut plus y penser, justement. Et nous avons également des pensées dont on a honte, dont on voudrait que personne ne les sache. Et d'où ça vient tout ça? Nous avons également, hélas, des pensées qui se prolongent pour faire des actions qui ne sont pas bonnes. Elles sont le fruit des pensées qui ne sont pas bonnes. Et qui voudrait ne pas être débarrassé de cela? Qui voudrait ne pas être mis au large par rapport à toutes ces pensées qui nous submergent parfois? Alors Jésus est très clair. Il dit, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols. Je lis Marc chapitre 7, versets 21 à 23. La soif de posséder, les méchancetés, fraudes, débauches, regards envieux, calomnie, orgueil, folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et donc, le Seigneur a situé ici le problème dans le cœur, et pas ailleurs. Donc, il faut changer de cœur. C'était ce qu'on avait abordé lors de la conférence. Où es-tu? Où es-tu? C'est la question que Dieu a posée à Adam quand il se cachait loin de lui dans le jardin. Il ne s'est pas approché en lui disant « Tu as fait cela, tu as fait cela » ou « Regarde ce que tu as fait ». Il s'est approché de lui en lui posant une question: « Où es-tu ? » C'est extraordinaire la façon dont il s'est adressé à lui et dans la façon dont il s'adresse encore à nous aujourd'hui en nous posant cette question. Où est-ce que tu en es? Où es-tu? Adam a répondu. Et Dieu a pu intervenir pour Adam dans une solution qui était toute temporaire avant la venue de Jésus-Christ sur la croix. Depuis la nouvelle alliance dont on s'est souvenu tout à l'heure dans la fraction du pain et le sang, souvenir du sang que Jésus a répandu, qui a été répandu à la croix pour nos pardons. La nouvelle alliance, Dieu propose d'entrer dans une nouvelle alliance. Le prophète Ézéchiel l'a formulé ainsi, chapitre 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc, il s'agit pour nous d'entrer dans cette alliance. On le fait par la conversion, par la repentance. Croire que Jésus-Christ est mort pour les péchés, croire qu'il a été enseveli, croire qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est une foi personnelle, croire qu'il est mort pour mes péchés. Croire qu'il est le Seigneur, le Messie des évangiles. Et donc se soumettre à sa seigneurie et en même temps recevoir son pardon. Donc on avait vu que Dieu lisait et connaissait les pensées. Et donc par la pensée, on peut s'adresser à lui à tout moment et même maintenant, on peut s'adresser à lui maintenant qu'on est en train de parler par la pensée. Et il est là et il nous entend. Le changement de cœur pour des œuvres préparées à l'avance. Un nouveau cœur, de nouvelles pensées pour de bonnes œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous a fait un don. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres préparées à l'avance pour une vie qui est nouvelle. Et donc, on s'en était un petit peu arrêté là, lors de la conférence. Et maintenant, je voudrais développer le problème, c'est quand les mauvaises pensées ressurgissent, malgré ce cœur nouveau qui nous a été donné, malgré cette nouvelle alliance dans laquelle on est entré, on a pris le pain et on a pris le vin tout à l'heure. Quand les mauvaises pensées ressurgissent à nouveau. Alors j'aurais une anecdote. Quand j'étais enfant, mon père, il avait acheté un terrain. Et ce terrain, il y avait un chemin qui le traversait, un chemin de servitude. Et il était d'un côté, il y avait un énorme roncier. C'était vraiment immense, énorme. Et donc, bien sûr, mon père, qui était l'ennemi des ronces, il a entrepris de débarrasser tout ça. Et donc on est allés à tous les deux, on a coupé les ronces, je me souviens, il fallait les pousser, couper, pousser. Et on s'est aperçu que le chemin était en fait très très large. C'était pas un chemin étroit avec lequel on passait juste avec le véhicule, mais c'était un chemin qui faisait 4 mètres de large qu'on a découvert. Les ronces avaient tout recouvert. Et on a poussé. On a débarrassé les ronces et quelques temps après, les ronces, bien sûr, elles ont repoussé. Mais c'était, ça n'avait rien à voir avec ce que c'était avant, mais on voyait les pouces qui remontaient. Et donc, mon père, il s'en est occupé encore, et il a fallu plusieurs années avant qu'il n'y ait plus de ronces du tout, et chaque fois qu'il y avait des ronces, soit il passait de sulfatage, soit il les coupait. Et il disait que, en fait, quand elles sont jeunes, là, si on les pousse, si on les coupe, c'est bon. Au bout d'un moment, ça repousse plus. Et quand il se promenait partout chez lui, dans sa ferme, il avait toujours un bâton fourchu comme ça, il était long, il avait l'extrémité qui était fourchue, et il posait il coinçait la ronce, et avec une petite faucille, tchac, il coupait la ronce à ras, et il se promenait, dès qu'il voyait une ronce, c'était le sort qu'il lui réservait, et il ne devait pas y avoir de ronce chez lui. Et dès que ça pointait, il coupait. Et l'herbe s'est installée un petit peu, là où on avait enlevé ce gros roncier. Et au bout d'un moment, ça y est, c'était fini. Il n'y avait plus de ronces qui poussaient là. Alors, nous aussi, des pensées mauvaises peuvent repousser dans nos vies, hein. Et donc, il faut les couper. Il faut se repentir, il faut les dénoncer. On connaît bien ce verset. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, de tout mal. 1 Jean 1, 9. Les mauvaises pensées sont de toutes sortes. Hélas, il n'y a pas que des ronces. Et moi, j'ai un jardin et c'est rare. Il y a des fois, je vois des plantes qui poussent toutes seules comme ça dans le jardin, au potager. Mais mon expérience, c'est que c'est rare que les plantes qui poussent toutes seules soient bonnes. Généralement, c'est des mauvaises herbes. Et généralement, j'ai eu tort de, je me suis dit, peut-être ça va faire une belle fleur, ou peut-être ça va faire quelque chose de sympathique. Peut-être c'est une graine qui a été oubliée, ou... Mais non, généralement, il vaut mieux les couper le plus tôt possible avant que cela prenne trop de racines, que cela envahisse, que cela colonise le terrain. Alors, ça c'est l'expérience de mon jardin, mais dans ma vie, j'ai vu qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui poussent à des périodes de la vie différentes, des situations différentes. Chaque phase de la vie a ses pensées qui peuvent pousser. Même quand on est béni, on peut avoir des pensées qui sont pas bonnes et qui poussent dans notre cœur. Et quand on est même dans le service du Seigneur, il peut y avoir d'autres pensées qui poussent qui sont pas bonnes non plus. Et tantôt ça va être de l'orgueil, tantôt ça va être de la suffisance, ou tantôt ça va être de la confiance en soi. Et tantôt, et ça pousse, et toutes différentes les unes des autres. Et on s'est dit, ça ne finira donc jamais. Alors, il ne faut pas se décourager. Je crois que les mauvaises pensées ne cohabitent pas beaucoup avec les bonnes pensées. Et je crois que si on entretient de bonnes pensées, comme le recommande le texte qu'on a lu ce matin, ça va aller pour nous. Ça va, pour nous, la bataille des pensées va pouvoir être gagnée. Alors, que faire pour entretenir de bonnes pensées? On l'a lu dans le texte de Philippiens, chapitre 2. Que vos pensées soient identiques à celles de Jésus-Christ. Et là, il est question de l'humilité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Avoir les pensées de Jésus. Entretenir une pensée humble. Autrement dit, combattre les pensées orgueilleuses en les remplaçant par des pensées humbles. Jésus de Nazareth avait une immense autorité, mais en même temps il était très accessible à tout le monde et il vivait de façon très modeste. On peut être très gentil, serviable, sans perdre l'autorité sur ses enfants. On peut vivre de façon humble, sans qu'il ne soit rien ôté de ce qui fait toute notre valeur devant Dieu et devant les hommes. Par contre, Proverbe 18-12 prévient bien, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Entretenir des pensées humbles, je crois que c'est ce que il nous gardera d'avoir de mauvaises pensées. Le passage de Philippiens chapitre 4, verset 4, encourage à se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et il est question de la joie dans tout cet épître. Paul encourage les Philippiens à trouver la joie dans le Seigneur. Alors bien sûr, c'est pas de la rigolade, c'est pas la moquerie. Ce sont pas des plaisanteries de mauvais goût, mais c'est la joie du Seigneur. Se souvenir de ce qu'il a fait, de se souvenir de ce qu'il nous donne, de se souvenir de ce qu'il dit dans sa parole. On peut trouver une profonde joie uniquement en regardant et en pensant et en nous souvenant qui est le Seigneur, qui il est pour nous, tout ce qu'il a fait. La joie de la communion également. La joie de la communion conjugale, la joie de la communion familiale, la joie de la communion fraternelle, cette joie-là va nous garder des mauvaises pensées qui viennent plutôt quand on est seul, quand on est isolé. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur fait de l'œuvre. Tout le monde, je crois, aime avoir affaire à des personnes qui sont douces. C'est tellement agréable d'avoir affaire à une personne qui est douce. Et des fois, vous faites la queue peut-être au supermarché ou à la caisse et la façon dont vous êtes accueilli, la façon dont on vous reçoit quand vous avez des problèmes ou voilà, une réponse douce calme la colère, hein, calme la fureur. Et que votre douceur soit connue pour vivre heureux, vivons cachés. Non, c'est pas ce qu'enseigne l'apôtre. Au contraire. Donc, être doux, un peu de douceur pour un monde de brutes. Et quand on entend cette expression, c'est un peu de douceur que je me fais à moi-même. Ah. Non, c'est pas ça non plus. C'est de la douceur qui est destinée à l'autre. Et donc, que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'entretien de la douceur va nous garder dans de bonnes pensées. L'humilité, la douceur. Il rajoute, le Seigneur est proche. La pensée de rencontrer le Seigneur est vivifiante, je trouve. C'est une expérience que j'avais faite, comme mon propre expérience, mais dans les moments les plus difficiles que l'on puisse traverser, la pensée de la proximité du retour du Seigneur est une source d'encouragement, une source de joie, quelle que soit la situation que l'on peut vivre. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous. On peut penser aussi à la retour du Seigneur quand on se relâche, quand on se laisse aller. Il a dit en effet veillez et priez. Et donc la pensée de rencontrer un jour Jésus-Christ est une très bonne pensée pour nous, pour éloigner les mauvaises pensées et leurs mauvaises œuvres. Et il poursuit en étant encore plus précis au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et gardera vos pensées en Jésus-Christ. Se garder dépendant de Dieu, ne pas se faire d'inquiétude. Alors ça, c'est facile à dire, hein. Mais quand les inquiétudes sont là, c'est pas toujours simple à gérer. Et donc, la solution, c'est la prière. Faire connaître nos besoins à Dieu. Faire connaître nos besoins, faites connaître vos demandes. Il y a certaines traductions qui disent « faites connaître vos demandes ». Faites des demandes, autrement dit, ou ce que vous avez à demander, demandez-le. Pourquoi faut-il faire des demandes à Dieu alors que Dieu connaît toutes choses? C'est quelque chose qui me... Qui me trouble parfois, mais pourquoi je devrais demander alors que Dieu sait parfaitement ce qui se passe? Pourquoi il faut que je lui demande? Bon, j'ai quelques réflexions là pour nous ce matin. Je ne sais pas si ça vous rendra service. Mais en tant que parent, on a de beaux projets, de bonnes choses pour ses enfants. Et en tant que parent, j'ai eu toujours une grande joie quand mon enfant venait demander quelque chose qui correspondait à ce que moi j'avais prévu pour. Une demande qui va dans le sens de projets qu'on fait pour eux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement plus beau que d'essayer de faire pour que de notre mieux pour que, voilà, il y ait les meilleurs, pouvoir faire de bons, travailler à l'école correctement, pouvoir avoir un métier plus tard, toutes ces choses que l'on souhaite pour pouvoir vivre une vie dans la meilleure condition possible ici-bas. C'est des choses que l'on souhaite pour nos enfants, mais quand la demande va dans le sens des projets que l'on fait ou que l'on a, c'est une source de joie. Et c'est une proposition que je peux vous soumettre également. Il y a aussi autre chose. Bon, si je prends l'exemple, par exemple, on peut avoir besoin de changer sa voiture. Ça arrive régulièrement. Il y a un voyant là qui s'allume. Ça, ce voyant est vraiment inquiétant. Il faut que je change ma voiture. Et alors, au lieu d'aller demander au banquier, on peut demander à Dieu. Je vais demander à Dieu une nouvelle voiture. Mais le fait de nous adresser à Dieu plutôt qu'au banquier, je crois, va nous faire réfléchir deux fois par rapport à cette demande qu'on fait. Est-ce la bonne solution de changer la voiture parce que un voyant s'est allumé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses plus pertinentes? Est-ce que notre désir de changer la voiture ne repose pas en fait sur le fait qu'on a envie de quelque chose d'autre et pas que la voiture a un problème? Et notre cœur cache parfois des choses comme ça, et le fait de faire les demandes à Dieu va nous faire réfléchir à ce qu'on demande, justement. Autre chose, quand on est dans une réunion de prière, on a souvent cette question, bon, qu'est-ce qu'on va demander à Dieu aujourd'hui, ce soir? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Et c'est un moment où on peut partager les sujets de prière, et voilà, on se met d'accord, et puis on demande quelque chose. Et je crois que c'est important que de faire les demandes à Dieu avec une attitude de reconnaissance. Prier, faire connaître nos besoins ou les besoins des autres avec une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, donc, avec cette belle promesse qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Refouler les inquiétudes et sans arrêt faire connaître nos besoins à Dieu, avoir cet échange avec lui. Et là, les mauvaises pensées vont se tenir loin de nous. Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur alors? C'est le sujet que je vous laisse en quittant cette salle. Qu'est-ce que vous allez demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. S'occuper à penser le bien pour ne pas penser le mal. Il est assez difficile de s'empêcher de penser. Quoique parfois cela soit nécessaire. On ne peut pas écouter quelqu'un si on pense autre chose en même temps. On ne peut pas faire les deux en même temps. Au moins, moi, je n'y arrive pas. Et des fois, il ne faut pas penser. Il faut écouter. Et on a besoin d'écouter Dieu. On a besoin d'écouter les personnes qui nous entourent avec une oreille attentive et consacrée. Il ne faut pas penser. Il faut pas, on pensera après, après avoir entendu. Il est difficile de s'empêcher de penser, quoique cela soit parfois nécessaire, lorsque nos pensées ne sont que des inquiétudes. Pour autant, il est difficile de s'empêcher de penser. Dieu nous apprend nulle part que nous devons faire le vide, que nous devons nous faire taire nos pensées. Les pensées sont créatrices de toutes sortes de projets, et les projets qui s'accomplissent, on appelle ça des œuvres. Alors, c'est bien de penser, mais il faut penser le bien, pour produire le bien. Alors, quand on a une pensée qui arrive, on peut la confronter à Philippiens, chapitre 4, verset 8. Portez-vous pensée tout ce qui est vrai. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est une pensée qui est honorable? Est-ce que si les personnes qui l'entendaient, est-ce qu'elles seraient trouver quelque chose de bien? Est-ce qu'il y aurait de l'honneur qui se dégagerait de cette pensée-là? Est-ce qu'elle est juste au sens de la justice de Dieu? Est-ce qu'elle est pure? Tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation. Donc, on peut écrémer beaucoup de pensées avec ce seul verset, hein, synonyme de qualité morale, qui est digne de louange. Portez vos pensées vers tout cela. Et voilà une saine occupation pour nos vies et pour que nos pensées soient des pensées qui produisent le bien et pas nous laisser envahir par les mauvaises pensées qui vont produire vont porter de mauvais fruits. Et l'apôtre Paul continue. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait et vous l'avez fait. Vous y pensiez, vous l'avez fait. Alors, il ne faut pas en rester repenser seulement. Il faut que joindre les actes aux pensées. Moi, je suis champion pour construire des châteaux en Espagne. Avec mes pensées, je peux faire des choses très belles. Mais bon, irréaliste, irréalisable. Dans mon travail, des fois, on fait des brainstorming. Alors, chacun amène ses pensées par rapport à un problème. Et puis on note tous des petits papiers, on pose les papiers sur les murs comme ça. Après on essaye de ranger les papiers pour classer un petit peu toutes ces idées. Et le but c'est de retenir que les idées qui sont applicables. Tout ce qui n'est pas applicable, ça ne sert pas à grand chose. Hein? Et donc on fait le tri comme ça dans les pensées. Et puis il y a un moment où il faut se mettre au travail. Il faut passer aux applications. Il faut que le fruit pousse et puisse se produire. Il faut que l'œuvre soit manifestée. Ne pas rester au stade des bonnes intentions ou des bonnes pensées. Des bons sentiments. C'est formidable. Mais il faut franchir le pas et les mettre en œuvre. C'est là, souvent, où on aura besoin de la foi. On aura besoin de la foi pour réaliser les projets, de beaux projets pour la gloire de Dieu. Alors, prions maintenant. Oui Seigneur, tu connais tout de nous, tu nous sondes complètement, dit David. Tu discernes même les choses les plus fines qui peuvent se passer dans notre cœur. Ô Seigneur, donne-nous de bonnes pensées qui viennent de ce cœur régénéré et pas des pensées qui viennent de notre cœur charnel. Et mortel qui n'a aucun avenir ici-bas et qui sera bientôt détruit. Merci pour les conseils que nous avons. Apprends-nous, Seigneur, à les mettre en pratique, c'est-à-dire à développer une bonne discipline de pensée, de pouvoir être vigilant quand les mauvaises pensées sortent, ou quand il y a des pensées étranges qu'on ne sait pas trop identifier, qu'elles sont suspectes. Seigneur, que nous puissions en faire le tri et nous focaliser sur les bonnes pensées, celles qui sont dignes de louange, dignes d'approbation. Oh, Seigneur, c'est tellement beau et on voudrait tellement vivre comme ça. Toujours avoir de bonnes pensées, de bonnes attitudes, de l'humilité, toujours avoir de la douceur, toujours tellement ressembler à Jésus. Seigneur, merci de nous aider, de venir à notre secours par l'Esprit que tu nous as donné. Merci également que tu nous as donné cette faculté de créer, de faire de belles choses, de déployer de beaux projets. Et Seigneur, permet que cela puisse être également dans nos vies personnelles et de projets de toutes sortes, suivant les dons et les capacités que tu nous as confiées, que cela porte du fruit, toutes ces capacités, de belles œuvres que tu as préparées d'avance. Et Seigneur, te demander que nous puissions avoir la foi également de les mettre en œuvre. Que nos résolutions ne s'arrêtent pas à nos bonnes résolutions, mais que cela soit mis en œuvre, animé, que notre corps ou membres soit occupé par cela. Nous te prions également pour notre Église, que tu lui donnes à elle aussi de bonnes pensées, de bons projets, Seigneur, de belles choses à penser quand on est ensemble, quand on est rassemblés ensemble. Et Seigneur, merci que tout cela, puisque tu en parles, c'est possible. Et nous tournons vers toi pour te demander, Seigneur, de nous donner de vouloir le faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen.